Vous êtes sur RTL. Pro sur RTL.
C'est vrai que Vincent, c'est une question récurrente et vous dites le confinement arrive. Pourquoi dites-vous cela ?
Oui, bonjour Pascal.
Rebonjour.
Tout simplement parce que, évidemment, que malheureusement, j'allais vous dire ironiquement, ça fait un an qu'on vit cette épidémie et cette pandémie même. Mais moi, personnellement, j'ai quitté l'hôpital parce que ça fait 20 ans que je connais cette détresse de l'hôpital, où on n'a pas de lit, où on n'a pas assez de choses. Et malheureusement, vous savez, de 2000 à 2020, on avait essayé d'interpeller plusieurs gouvernements, plusieurs présidents. Et en fait, on n'a jamais été entendu ou écouté, je ne sais pas.
Non mais j'entends bien, mais qu'est-ce que vous voulez dire sur la période ? Parce que s'il y a 20 ans que ça ne change pas...
Regardez, malheureusement, on est obligé de faire le confinement pour sauver l'hôpital.
Ah oui, vous pensez donc. Mais on n'est qu'à 3000 pour le moment de réa et on n'a jamais été même dans la période la plus critique.
Oui, mais on anticipe.
Eh ben, je veux bien qu'on anticipe, mais on anticipe aussi peut-être des vies sacrifiées, des usines qui ferment, des commerces qui ne pourront pas ouvrir.
C'est ça qui est malheureux. C'est malheureusement, pour anticiper l'hôpital, malheureusement, et je suis entièrement d'accord avec vous, l'économie en France, et donc on parle beaucoup des restaurants et de tous les commerces, c'est une catastrophe. Je suis entièrement d'accord avec vous, et c'est triste. Et cette politique qui, moi ça ne me convient pas, parce qu'il faudrait que la vie, évidemment, retourne, mais non, ça va pas. C'est juste parce que malheureusement, à travers le confinement, on est en train de montrer un truc qui est peu de médias. Et c'est pour ça que je profite
de la parole que j'ai avec vous. J'ai pas compris.
Oui, je disais peu de médias.
Peu de médias.
Et c'est pour ça que je profite avec vous de dire, voilà, ça fait plus de 20 ans que
c'est
l'hôpital,
comme ça.
Il est triste, il est à la rue.
Eh ben merci Vincent de ce premier témoignage. Vous êtes infirmier libéral, vous êtes dans les Alpes-Maritimes. Alors hier soir, si vous étiez avec nous hier après-midi, on a terminé avec Jean-Pierre et effectivement, on était un poil pressé par le temps. Bonjour Jean-Pierre.
Donc, bonjour Pascal, merci de m'avoir repris. Et
c'est la moindre des choses. Donc,
éléments.
Oui, qu'est-ce que
j'étais contre. On a eu des éléments qui sont arrivés puisque M. Macron a annoncé, on a bien compris, qu'il préférait attendre sagement un petit peu de voir comment tout ce qui allait se passer. Effectivement, c'est peut-être une décision qui est sage. Mais oui, je suis contre le confinement parce que j'ai peur des conséquences à côté, comme votre auditeur vient de dire. Comme vous avez évoqué, les fermetures de commerce, les suicides éventuels, les conséquences à côté. Moi, par contre, je prenais effectivement hier, c'était les solutions. Évidemment, il y a la vaccination. La vaccination, moi, ceux qui veulent se faire vacciner, pas de problème. Pour l'instant, moi, c'est non. J'attends de voir. Maintenant, je serais pour appliquer continuer à appliquer les consignes de distanciation.
Le vous attendre voir, j'attends de voir, ça me fait souvent rire et même sourire. Vous attendez quoi de voir ? Vous attendez, parce que là, il y a déjà eu 20 ou 25 millions de gens qui ont été vaccinés dans le monde. A priori, on a un peu de recul, donc il n'y a pas d'effet secondaire catastrophique. Il y a eu les effets secondaires qui peuvent exister sur un vaccin classique. Alors, donc vous attendez quoi ?
Alors justement, je savais que vous alliez me poser cette question-là. La question, c'est simple, j'attends quoi ? Moi, en fait, pour l'instant, je me sens en pleine forme, tant mieux pour moi, pourvu que ça dure. Moi, j'essaye de faire attention, comme je disais...
Oui, mais c'est pas ma question, vous attendez de voir quoi sur le vaccin ?
Déjà, qu'on nous explique exactement, précisément ce qu'il y a dedans. Parce que pour l'instant...
C'est précis, ARN messager. Précis, ça,
on vous dit pas tout ce qui est dedans, précisément.
Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait?
Il y a du bois. Vous avez qu'à aller sur Internet, vous avez à manger et à boire. Alors, c'est simple, vous avez à manger et à boire, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc moi, tant que c'est pas bien précis, ce qu'on nous injecte, c'est bien précis, moi, pour l'instant,
mais moi, je
non.
peux pas vous répondre parce que j'ai pas la qualité d'un médecin, mais je pourrais appeler Axel Kahn, ça serait intéressant, d'ailleurs, qui est généticien, qui, à longueur d'interview, dit que ce médicament, ce vaccin est absolument pas dangereux, hein, bien sûr, et qu'il est efficace à 90 ou 95% des cas. Et je veux plutôt croire la parole d'un généticien dont c'est le métier.
Oui, mais alors...
Et vous me dites Internet, sur Internet, effectivement, qui parle sur Internet ?
Ouais. Maintenant, moi je serais pour plutôt utiliser d'autres solutions. Alors pas que la chloroquine, parce qu'on va pas revenir là-dessus.
Ça marche pas surtout. Vous pouvez l'utiliser, mais ça soigne pas. C'est pas moi qui le dis, je dis rien. Mais c'est fou. C'est des discussions. C'est pas moi qui le dis. Moi, je ne suis rien, j'ai pas d'avis. Toute la communauté scientifique s'accorde à dire que l'hydroxychloroquine ne soigne pas, ne serait pas la panacée. Autrement, tout le monde le ferait, j'imagine.
Bah pourtant, il existe depuis plus de 70 ans. Il a été utilisé pour d'autres.
L'aspirine aussi, c'est utilisé, mais c'est pas, ça marche pas dans.
Honnêtement, je préfère avec vous. Je préfère plutôt que manger plus de fruits et de légumes et puis prendre plus de vitamines, essayer de développer mes propres anticorps que. Je vous dis, sauf si vraiment je tombe vraiment malade. Mais autrement, dans tous les autres cas, non. Moi, je reste sur ma réserve.
Jean-Pierre, merci.
On est des milliers.
Ah oui, ça n'a pas échappé, Jean-Pierre. Mais comme je suis un peu là, L.A.S., de ces conversations parfois, je propose qu'aujourd'hui, grâce à Greg Karanoni, nous rendions hommage à un des grands chanteurs français, Michel Sardou, qui a 74 ans.
Et là, du Connemara.
Ah, vous voyez, là, on va être d'accord, en revanche.
Ah oui, c'était un de ses mères.
Je suis catholique, Marine aussi, l'église en granit, de l'île, Marine, allez, oui. Ah oui, c'est à 5h du matin, ça pulse. Parce que jadis, il y avait une activité formidable, c'était boîte de nuit. On avait le droit d'y aller, figurez-vous. Et on dansait à 5h du matin.
Je voudrais redanser, Pascal.
Vous pouvez redanser tout seul. Maintenant, danse tout seul. Ce qui fait plaisir à ses voisins.
Dans le salon,
exactement. Hein, Greg ? À 5h du matin, on ne pouvait plus quitter la piste de danse. Donc on va rendre hommage, pas hommage d'ailleurs, parce qu'on va passer des disques de Sardou. Il a 74 ans, si vous voulez lui célébrer son anniversaire. C'est également l'anniversaire de Bernard Tapie, et puis on l'a dit également à RTL, c'est Sophie Orange et Philippe Sansfourche qui sont nés un 26 janvier. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
Laurent Tissier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Alors le confinement, c'est pour quand ? Emmanuel Macron a-t-il raison d'attendre ? Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, était très clair dimanche sur BFM.
Il y a urgence et le conseil scientifique l'a écrit à plusieurs reprises. Dans une situation difficile, plus on prend une décision rapide, plus elle est efficace. Et plus elle peut être de durée limitée.
Même tonalité du côté de l'infectiologue Karine Lacombe, invitée dimanche du Grand Jury sur RTL.
Nous, scientifiques, considérons qu'on ne peut pas attendre.
Et ce matin, changement de ton de Jean-François Delfraissy dans Libération. On n'est pas à une semaine près. La ministre déléguée chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, s'est aussi exprimée ce matin.
À ce stade, il n'y a pas de raison de décider un confinement.
Alors, faut-il éviter toute précipitation ? Quelle est pour vous la meilleure décision à prendre ?
Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Mais vos messages sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole, le confinement est inévitable, écrivent. Attendre ne changera rien, c'est vraiment un jour sans fin pour Benoît. Les Français en ont marre, s'énerve Stéphane, réflexion de Marie. Eh bien, devant toutes ces incertitudes, je suis incertaine. Sacré dilemme quand même pour l'exécutif, observe Axel. Quoi qu'il décide, les détracteurs seront à l'affût. Emmanuel Macron a raison d'attendre, lance Sylvie. Première fois que je suis d'accord avec lui, marre de ces défilés de scientifiques permanents qui ne font que nous affoler. Et stop au confinement, rajoute Falco sur la page Facebook.
Non mais c'est une vraie question que je pose aux auditeurs. Est-ce qu'à un moment, il faut que les conseilleurs conseillent, ne prennent pas la parole. Même nous, les médias, peut-être arrêtons de les inviter en permanence pour qu'ils donnent des avis en plus divergents et qui, effectivement, contribuent, pourquoi pas, à semer le doute dans l'opinion publique et à affoler les foules. Jean-Pierre était... On a terminé avec Jean-Pierre, hein, bien sûr. Merci Jean-Pierre qui habitait Beauvais. Bertrand est là, directeur d'un club de sport. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Alors évidemment, vous êtes dans le Var. L'autre jour, vous étiez avec nous, hein, vous avez pu échanger.
Patrick Vignal, oui.
Voilà, c'était intéressant. Donc votre directeur, votre club de sport est en très grande difficulté puisque vous êtes fermé.
Ben oui, on est fermé. Heureusement que le gouvernement nous a proposé des aides qui peuvent à peu près boucler les fins de mois, mais on perd de l'argent tous les mois. Et cette situation n'est pas tenable à moyen terme, je vais dire. Hein. Voilà, on a encore quelques... Je dirais que l'ensemble des clubs qui avaient un petit peu de trésorerie, ils ont peut-être encore 2 ou 3 mois pour se retourner. Et puis après, ça va être un drame puisqu'on va arriver dans les mois d'été. Et puis, ben, vous savez, en été, c'est pas là qu'on fait le plus d'abonnements puisque, légitimement, les gens ont envie d'aller dehors, surtout dans notre département, profiter de l'extérieur. Et là, s'il y a un troisième confinement en plus, ça va rien arranger au niveau moral, hein, c'est sûr.
Est-ce que vous pouvez tenir encore ?
Moi, je peux tenir encore. Oui, je peux tenir, puisque j'ai des aides, j'ai des banques qui me suivent, j'ai des propriétaires qui se font preuve de compréhension, même si à un moment donné, ben, il faut renvoyer l'ascenseur. Oui, je peux tenir, mais on n'est pas nombreux dans ce cas-là. On n'est pas nombreux dans ce cas-là. Et je vais vous dire, Pascal, moi, le problème, il n'est pas posé à l'heure actuelle. Il n'est pas vraiment posé au niveau de la notion tenir ou pas tenir. Je sais que je peux le faire. Il va se poser à la réouverture. Qu'est-ce qui va se passer ? Là, je crois que il va y avoir des dépôts de bilan en cascade chez nous, il y aura des licenciements, on peut pas faire face, c'est pas possible. Il y a un moment donné, si on nous lâche comme ça dans la nature, sans repréparer des aides, sans nous donner quelque chose de concret au niveau de la transition entre l'arrêt avec les aides et la reprise sans aide, il faudra trouver des choses. Vous savez, par exemple, que ma comptable a fait la demande pour le chômage partiel pour mars, en anticipant, ça lui a été refusé. Ça veut dire que là, en ce moment, le gouvernement, il fait mois par mois. Et on peut aussi le comprendre, parce que ça commence à faire pas mal d'argent qui est dehors. Mais nous, on a besoin de plus de certitude quant à la reprise. Parce que c'est là que le problème va se poser, vraiment.
Mais là, je trouve qu'on est dans une séquence particulière depuis 15 jours, parce que chacun comprend que le virus va durer. Et c'est peut-être l'arrivée des variants qui a donné cette idée nouvelle. Donc, on se dit qu'on est obligé de vivre avec, puisque un troisième confinement, pourquoi pas, mais les deux premiers n'ont pas arrêté le virus. Alors, un troisième, et puis un quatrième, et puis un cinquième. Et comme l'État ne peut pas toujours payer, il me semble qu'on est à un moment charnière où les uns et les autres vont peut-être comprendre qu'on n'a pas d'autre solution que de vivre avec. Alors évidemment, avec des conditions particulières, c'est-à-dire masque tout le temps, gestes barrières tout le temps, et les 5 prochaines années, peut-être, ne vont pas être rigolotes. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'on imaginait, il y a encore 2 mois, que cette épidémie pouvait s'arrêter. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on se dit, elle ne s'arrêtera plus. En tout cas, pas tout de suite. Pas dans l'année.
Moi, je pense que le problème, il y a des scientifiques. J'écoute un peu. Hein, je suis prof de, je suis coach sportif, un peu scientifique, mais j'écoute un peu. Ça m'intéresse. Et les scientifiques sont partagés. Certains disent que le virus disparaîtra à un moment donné, comme il est arrivé. Mais là, c'est.
Ben, j'ai l'impression que c'est moins dit ça. Ça l'était. J'ai l'impression vraiment que l'arrivée des variants induit une idée différente.
Oui, surtout qu'ils disent que dès qu'il y a un nouveau variant, on assiste à une nouvelle pandémie. Donc c'est un cercle vicieux.
C'est ce qu'a dit Jean-François Delfraissy. C'est-à-dire que le variant numéro 2, le variant anglais, est l'équivalent d'une nouvelle pandémie. C'est ce qu'il a dit, président du Conseil scientifique.
Moi, je pense que cette position, on ne peut plus la tenir. Rappelez-vous ce qu'avait dit le gouvernement au premier confinement, et je pense qu'il le disait de bonne foi. Quand on est sorti du premier confinement, c'était pas envisageable un deuxième confinement.
Bien
vous rappelez des déclarations ?
Mais bien sûr, c'est pour ça que je le dis aujourd'hui, les choses ont changé. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron hésite à faire un troisième confinement. Parce qu'il devine lui-même que ça, je ne veux pas dire que ça sert à rien, puisque ça va stopper mécaniquement. Bien sûr, mais ça ne résout pas le problème de fond.
Est-ce que vous ne pensez pas que, je ne sais pas, maintenant on a des statistiques au niveau des lits d'hôpitaux, tout ce qui est réanimation, on sait quelles sont précisément les personnes à risque. pourquoi ne pas leur demander à leur tour de faire également preuve de solidarité et de mettre des masques FFP2 à la maison, de rester tranquille, de redoubler de précautions. Et puis nous, on représente vraiment un pourcentage qui est infime au niveau de la mortalité, ben laisser le pays repartir économiquement. Parce que d'un côté, bien sûr, quand on voit que ça monte en réanimation, on ne peut pas ne pas penser à notre population de soignants. Donc il faut faire quelque chose. Pour le moment, il faudrait peut-être reconfiner les personnes à risque en attendant qu'elles soient vaccinées.
Bon, ben merci en tout cas Bertrand de cette analyse et bon courage effectivement pour votre club de sport. Vous pourrez rendre hommage. Alors, Patrick Devers était né également un 26 janvier et il est le jumeau, figurez-vous, de Michel Sardou parce qu'il était né le 26 janvier 1947. Patrick Devers qui a disparu en 1982. On a une petite chanson de Sardou ?
Quand on fait la Java le samedi à Broadway.
Non, ça c'est pas bien.
Pourquoi c'est pas bien ?
Parce qu'on fait plus la Java. Ça c'est vraiment moche. À Broadway ni ailleurs. Ça, c'est une chanson du monde d'avant. Quand on fait la Java à Broadway.
Et le monde d'avant, on ne fait vous plaît
pas ? On est en couvre-feu.
J'étais persuadé que vous adoriez le monde d'avant, c'est incroyable.
J'adorais le monde d'avant, comme vous dites. Mais là, quand on fait le Java le samedi, dans son appartement, en couvre-feu à 18h. Voilà les nouvelles paroles.
On rigole
à tout de suite.
Comme à Saint-Paul-de-Vence, jusqu'à la 50e.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RT.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Emmanuel Macron résiste, il résiste à la pression des blouses blanches qui souvent n'ont qu'un mot à la bouche ces dernières heures. Confinement, confinement, confinement. Et lui souhaite attendre les résultats du couvre-feu. Nous sommes avec Christophe qui est chef d'entreprise à Nantes. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Pascal. Comme votre auditeur précédent, je suis un entrepreneur nantais. Contrairement à lui, moi je touche aucune aide. Alors je suis un peu excédé. Je n'accepte pas le confinement généralisé. Je n'accepte plus cette communication des médecins, du gouvernement, qui sont de l'opinion en permanence. On confine, on confine pas. Comment voulez-vous gérer une entreprise avec de telles décisions ? On passe de déclaration en déclaration, d'espoir au désespoir. C'est impossible de
se projeter. Vous êtes dans quel secteur ?
Je suis dans la restauration.
Ah oui.
Rapide.
Donc effectivement, c'est fermé.
Voilà, c'est fermé. J'ai pas pu démarrer. On entrave ma liberté de travail. On entrave ma liberté d'exercer. Et on a le droit à aucune aide, aucun dispositif. Il faut anticiper sur cette vague. Il faut anticiper sur la vague. On la voit venir. On sait que la vaccination... Il y a une déficience dans la vaccination. La pandémie, elle va durer. Donc il faut confiner, je suis d'accord pour un confinement, mais un confinement ciblé. Ciblons le confinement pour libérer l'économie, libérer les actifs. Libérer les actifs.
Le problème du confinement ciblé, c'est qu'on ne sait pas si c'est constitutionnellement possible. Alors l'autoconfinement ou de suggérer l'autoconfinement, pourquoi pas, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse dire aux gens de plus de 70 ou 75 ans ou à ceux qui sont fragiles, mais selon quels critères, parce que convenons que tout ça peut être subjectif, je ne suis pas sûr qu'on puisse le rendre obligatoire.
Oui, mais que font nos politiques, de gauche ou de droite, toute opposition ? Mais pourquoi ils se mettent pas autour de la table pour décider, pour avancer ?
Je peux pas répondre à cette question, mais il y a un consensus d'ailleurs dans la vie politique, je trouve, depuis un an, et il y a très peu de politiques alternatives qui sont proposées.
Oui, c'est vrai, il y a très peu de politiques, mais pendant ce temps-là, l'économie est en train de s'écrouler. Des gens comme moi sont au bout du bout, on ne peut plus avancer, on investit.
C'est pourquoi Emmanuel Macron n'a pas reconfiné. Sans doute prend-il en compte aujourd'hui ce qu'il ne prenait pas en compte il y a encore 2 mois ou 3 mois, c'est que le niveau d'acceptabilité des mesures ou des restrictions est peut-être dépassé.
Je suis d'accord avec vous, Pascal, mais quand vous gérez une entreprise, vous la gérez pas le jour le jour. Si ça se trouve, la semaine prochaine, vous avez peut-être raison. La semaine prochaine, il va peut-être décider de fermer, de confiner.
Peut-être.
Mais on ne gère pas une entreprise comme ça.
Mais oui, mais c'est quoi la politique alternative ? C'est ça. Ou on rouvre tout et certains disent vous êtes des fous parce que nos hôpitaux seront en tension et vous acceptez un nombre de morts important, soit vous dites vous reconfinez tout et d'autres gens comme vous appellent en disant on va tous mourir économiquement.
Pour l'instant, il y a 3000 personnes à l'hôpital. Il y a
mais, pas de... mais j'entends, moi, je passe mon temps à dire ça. Il y a 3000 personnes en réa, pas à l'hôpital, en réa.
En réa, oui, vous avez raison.
C'est pas la même chose.
Qu'on nous donne la statistique de la table de mortalité des gens qui meurent à l'hôpital.
Mais, les gens en moyenne ont 81 ans. L'âge médian, voilà. C'est 84 ans. Est-ce que vous savez combien de personnes sont mortes du Covid âgées de 0, si j'ose dire, à 44 ans?
Une vingtaine.
60 personnes. Ouais, 60 personnes sont mortes en dessous de 44 ans depuis le début de la pandémie. Donc après, chacun... Voilà. Ça, c'est des faits. Et après, chacun les interprète comme il le souhaite.
Absolument. Alors Pascal, moi, ce soir, je rencontre le préfet, le cabinet du préfet de la Loire-Atlantique pour discuter de mon dossier. Je serai peut-être en mesure demain, si vous me rappelez, comme l'a fait le maire de Cabourg, j'aurais peut-être un peu plus de nouvelles à vous donner.
Le maire de Cabourg, alors, vous faites référence au maire de Cabourg qui a voulu faire le malin hier en début de conseil municipal. Il s'appelle Tristan Duval et il a annoncé qu'un reconfinement serait prêt cette semaine et appliqué dès ce jeudi. Et il a dit, c'est le préfet de Normandie qui m'a appelé, le préfet du Calvados, pardonnez-moi, qui m'a appelé et qui m'a précisé qu'on fermait tout à partir de jeudi. Après, il y a eu un tweet du préfet pour dire « Évidemment, je n'ai jamais parlé avec le maire. » Et le maire, Monsieur Duval, a dit « Je crois que j'ai mal été compris. » Bon, no comment. 13h28, c'est mieux Sardou. Hein, parce que Sardou, on met un peu de Sardou. Je le rappelle, c'est son anniversaire aujourd'hui, 26 janvier. Ah, il n'y a pas de Sardou, là.
Si, si, avec plaisir. J'ai trouvé une petite chanson.
Ah. Et puis allons danser.
Ah non, ça va pas ça non plus, allons danser.
Tout ça.
Non, mais j'en ai une autre.
Oh.
Ah non, ça marche pas non plus. Attendez, j'en ai une autre.
Elle court, elle court, la maladie.
Ah non, ça marche pas non plus.
Ah non, ça c'est bien ça.
Ah.
Parce que là, je vais vous dire, c'est peut-être c'est le premier plus grand succès de Michel Sardou. On est en 73. Et à l'époque, il y avait vraiment des tubes. Et toute la France a chanté ça. Et quand je dis toute la France, je sais pas combien de 45 tours il a vendu, mais on n'entendait que ça parce qu'il y avait 4 ou 5 radios à l'époque. C'était Madame Le Marcy qui était aux variétés à l'époque. On pourrait l'appeler d'ailleurs, on l'a vu au téléphone, Monique Le Marcy. Pour parler de Michel Sardou, pourquoi pas? J'ai tellement envie de parler d'autre chose pour tout vous dire, Greg Caranoni.
Ça s'entend et vous allez surtout... Vous n'avez surtout pas envie d'écouter Michel Sardou, si. Parce que vous n'arrêtez pas de parler dessus.
Vous m'avez bâché, là, vous avez vu ?
C'est parce que je vous aime bien.
Moi, je vous aime tout court, ami.
J'ai quelque chose à vous dire.
Je vais
la pub
jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je disais tout à l'heure que on en a parfois un peu assez de parler du confinement. Laurent Tessier, il y a d'autres thèmes aujourd'hui.
Ouais, la Cour des comptes qui pointe du doigt le système de primes très complexe de la RATP, pas moins de 311 primes différentes.
Il y a d'abord les primes qui paraissent totalement désuètes. La prime de machine à écrire, par exemple. Ils sont plus nombreux à toujours percevoir une prime pour utilisation d'un ordinateur. J'ai repéré aussi une prime d'usure anormale des chaussures et la prime dite de sang-froid si l'agent réussit à dissuader un usager de se jeter sous les roues d'une rame.
Une prime aussi de capture d'animaux. 3,50€ pour une souris. Qu'en pensez-vous? Ces primes ont-elles encore un sens? Vous travaillez à la RATP, vous les trouvez logiques? 32,10. Les députés se penchent aujourd'hui sur la loi contre la maltraitance animal. Christophe Marie, le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, était l'invité de RTL Midi.
La proposition de loi ne vise que les animaux de compagnie et les animaux sauvages captifs. Elle fait l'impasse sur tous les autres sujets qui fâchent, comme les problématiques de la chasse, les problématiques de l'élevage intensif. Mais pour autant, il y a quand même des options qui sont intéressantes et qui doivent aboutir.
Pour près de 7 Français sur 10, les animaux sont mal défendus par les politiques. Résultat d'un baromètre IFOP. Qu'en pensez-vous? 32,10. Et c'est aujourd'hui l'anniversaire de Michel Sardou, 74 ans. Dites-nous, quelle est votre chanson préférée?
L'amour, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant.
Greg, est-ce que vous avez une prime pour travailler avec moi?
Oui, j'ai une prime de pénibilité, absolument. je n'osais pas vous le dire.
C'est vous qui avez été choisi par la direction de RTL. Il y a une prime. Bon.
Elle est assez conséquente d'ailleurs, en fonction de la pénibilité elle-même.
Le 22 décembre, les services du défenseur des droits ont envoyé un courrier comminatoire au préfet de la base de loisirs de Jablinanais en Seine-et-Marne, propriété de la région Île-de-France. Il m'apparaît que l'interdiction du burkini au sein de la base de loisirs est susceptible de constituer une discrimination, a écrit Georges-Paul Langevin, qui est adjointe de la défenseure des droits. C'est une saisine fondée sur une plainte du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, qui a été dissous, rappelons-le, le 2 décembre. Pour Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, la défenseure des droits reprend les arguments du comité contre l'islamophobie en France, dissous après l'assassinat de Samuel Paty. C'est un sujet qui vous fait réagir. Bonjour François, vous êtes dans le Calvados.
Oui, bonjour Pascal. Eh bien, vous n'êtes pas si pénible que ça quand même. Donc
vous
la prime devrait être petite.
Vous êtes
Je voulais vous dire que pour moi, le burkini n'est pas un simple choix vestimentaire. C'est l'approche véritable, religieuse de la femme par rapport au commandement du Coran. Et ça, on ne peut pas l'ignorer, parce que toutes les femmes qui vont porter le burkini dans les piscines vont se montrer comme étant des musulmanes, modérées, libérées, mais musulmanes. Donc il n'y a pas de liberté en soi. Parce que la liberté de porter un burkini, c'est surtout la réponse à un acte d'une obligation de ne pas montrer son corps aux autres. Et respecter cet acte, c'est respecter le commandement du Coran, donc c'est à l'encontre de notre république et de notre démocratie qui est laïque en telle.
Bah je peux souscrire à ce que vous dites, mais ce qui est intéressant, c'est le défenseur des droits.
Alors,
là, qui prend la parole, et c'est ça qui peut nous étonner.
Alors,
c'est ce que dit Valérie Pécresse, d'ailleurs.
Oui, alors moi, ce qui m'étonne, c'est que je pensais que le défenseur des droits, c'était avant tout pour tout ce qui était du droit républicain, démocratique, et que je ne vois pas en quoi porter un burkini rentre dans le droit républicain. Ça rentre dans la religion, donc dans le droit personnel, mais individuel. Et en tant que tel, ce n'est pas une obligation pour une musulmane de montrer qu'elle est musulmane en portant un burkini. Un curé porte une soutane parce que c'est un uniforme. Une bonne sœur porte un habit de bonne sœur parce que c'est un uniforme, un imam et ainsi de suite. Mais en aucune façon, l'un ou l'autre de nous dans notre société républicaine ne doit porter un vêtement ostentatoire.
Alors je rappelle qui est le défenseur des droits d'abord. Ça a longtemps été Jacques Toubon, mais c'est maintenant Claire Hédon. Et le défenseur des droits est nommé par le président de la République pour un mandat de 6 ans, non renouvelable. Le défenseur des droits est chargé de défendre les droits des citoyens, non seulement face aux administrations, mais dispose également de prérogatives particulières en matière de promotion des droits de l'enfant, de lutte contre les discriminations, du respect de la déontologie, des activités de sécurité.
Oui.
Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Le CCIF a saisi le défenseur des droits, a dit « telle personne ne peut pas entrer sur une base de loisirs avec un burkini », et le défenseur des droits a considéré qu'effectivement il y avait discrimination, puisque cette femme ne pouvait pas, en l'occurrence,
oui,
avoir un burkini.
Donc le CCIF, qui a été dissous, de par la décision du défenseur des droits, montre qu'il avait sa place dans notre République. Et là, ça devient dangereux, parce qu'on prend une décision de par une plainte portée par une association qui est dissoute de par ses tenants et ses aboutissants près des discours presque terroristes. Et on s'aperçoit que le défenseur des droits prend acte quand même de la demande de ce groupe CCIF. Et moi, ça me fait penser quand même qu'il y a un relent d'élections à venir, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Dans la population dite musulmane, il y a un nombre non négligeable de gens qui votent, et qui votent en France, et peut-être qu'on veut faire plaisir aux uns, mais on oublie que si on accepte ça aujourd'hui au niveau du burkini, mais demain on peut accepter tout ce que l'on veut par rapport à la charia, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça va être le burkini, demain on va interdire l'accès de la piscine aux hommes, et après-demain on aura des horaires spéciaux. Il faut à un moment donné faire savoir si on vit ensemble ou si on vit chacun à côté de l'autre sans vivre vraiment ensemble. Et notre vie ensemble, elle dépend de notre constitution et de notre façon de voir notre République. Moi, je suis catholique et je me fous de savoir si quelqu'un n'aime pas Jésus et j'en ai rien à péter. Parce que ma croyance est à moi, elle appartient pas au voisin.
J'ai été un peu surpris pour tout vous dire, autant de trivialité dans votre bouche, cher François. Alors...
c'est une trivialité qui est malheureusement réelle.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai vu votre papier, j'ai le Coran chez moi, je vous l'ai déjà dit une fois, j'ai le Coran chez moi, j'ai pris la sourate numéro 4, le verset 31, et j'ai dit, c'est une réponse exacte au Coran, à la sourate numéro 4, au verset 31.
Oui, même si les textes, on leur fait dire ce qu'on veut, et je pense pas qu'il soit écrit dans le Coran qu'on ne doit pas se balader en burkini, mais peu importe. Je rappelle quand même que le défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que tout organisme investi d'une mission de service public. C'est important
mais
de le préciser.
La religion n'est pas un service public.
Oui, non, mais alors, il n'y a pas de souci, si j'ose dire, François. 13h40, voilà. Nouvelle page de pub, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous parlons du burkini et je rappelle que le 22 décembre, les services du défenseur des droits ont envoyé un courrier comminatoire au président de la base de loisirs de Jablines-Annay, en Seine-et-Marne, propriété de la région Île-de-France. Ce courrier dit ceci, il m'apparaît que l'interdiction du burkini au sein de la base de loisirs est susceptible de constituer une discrimination. Et c'était en réponse à une saisine fondée sur une plainte de du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, qui a été dissous le 2 décembre après la mort de Samuel Paty. On a eu François, on va avoir Michel. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pro. Écoutez, moi je vous ai appelé parce que je me base sur la devise de la France. Liberté, d'accord, égalité, fraternité. La fraternité, nous l'avons, presque. La liberté, je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais l'égalité, nous sommes loin de l'avoir, en particulier entre les hommes et les femmes. Et je trouve que obliger une femme à se cacher parce qu'elle est une femme, c'est une atteinte à la liberté. Et c'est une atteinte aussi au respect dû aux femmes qui nous ont précédées. Les femmes françaises se sont battues pour avoir des droits égaux aux hommes. Et là, on est en train de revenir en arrière en interdisant aux femmes un certain nombre de choses, et en particulier le droit d'être. Et c'est ça qui me choque beaucoup. C'est pour ça que je suis contre le burkini et que je suis contre le voile en général.
Écoutez, Michel, moi, j'ai rien à ajouter à ce que vous dites. Généralement, les religions, de toute façon, n'ont pas été très égalitaires pour les femmes. C'était vrai dans la religion catholique, c'est vrai dans toutes les religions. Donc, effectivement, elles ont toujours considéré que les femmes étaient, en tout cas, elles n'étaient pas traitées de manière égalitaire avec les hommes. Chacun sera d'accord là-dessus.
Tout à fait.
Puisque dans les religions, elles sont souvent couvertes, au contraire, par exemple, des hommes. Parce qu'elles sont présentées comme le péché, comme la tentation, etc. etc. Mais c'est vrai aussi dans la religion catholique.
Les religieuses sont habillées en civil, sauf quand elles sont cloîtrées.
Bien sûr. Donc, quelle est votre proposition, Michel? Faut interdire le burkini?
Pour moi, il faut interdire le burkini. Tout à fait.
Mais il est interdit d'ailleurs sur les plages, je crois. Il était interdit sur les plages et il a interdit dans l'espace public, ça se pose pas parce que les gens se baladent pas dans la rue en burkini. Mais dans les plages ou dans les piscines, là où il pourrait être employé, quoi, en tout cas utilisé. Je rappelle que le burkini, c'est un maillot de bain qui couvre l'essentiel du corps de la femme.
Oui.
Donc une bonne partie. Donc effectivement, ce burkini, il est déjà interdit dans l'espace public. C'est pour ça que dans l'espace public, dans les piscines publiques, sur la plage. Donc je suis très étonné de
généraliser cette interdiction.
Mais elle l'est de fait. Mais là, ce qui nous fait parler, c'est que le défenseur des droits, dont je rappelais l'historique, manifestement s'en est ému.
Oui.
Et c'est pour ça qu'on est surpris.
Mais oui, tout à fait. Et c'est pour tout. Ça que je suis contre la suppression de l'interdiction du burkini.
Bah merci en tout cas, Michel, ouais, de votre témoignage.
J'ai quand même pas mal voyagé. Hein. Nous sommes en France, comme je vous disais tout à l'heure. Quand je suis allée à l'étranger, j'ai toujours respecté la loi du pays. Quand il faut porter des vêtements larges pour qu'on voile mon corps, je l'ai fait. Quand il faut porter un vêtement long pour entrer dans un temple, je l'ai fait. Quand il faut se déchausser pour entrer dans un temple et le visiter, je l'ai fait. Je ne vois pas pourquoi en France, on permet que les femmes ne soient pas reconnues comme égales des hommes puisque nous avons l'égalité totale.
Vous avez raison. Merci beaucoup, Michel. Voilà. Vraiment merci de votre intervention et à très vite. À tout de suite, en tout cas, après la pub.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Toujours avec Laurent Tessier à 13h50.
Vous pouvez souhaiter un bon anniversaire à Michel Sardou, Bernard Tapie. Réussir sa vie. Philippe Sansfourche, Sophie Orange. Et ce mardi 26 janvier marque aussi la date du premier anniversaire de la disparition de Michou.
Parce que j'étais petit, on m'appelait Mimi. Plus tard, quand j'ai grandi, on me nomma Chouchou. Un beau jour, j'ai choisi ni Chouchou ni Mimi. Je n'ai plus qu'un nom pour vous.
Nous attendons vos appels dès maintenant au 3210.
13h51, Michel Sardou, justement, il y a beaucoup d'auditeurs, auditrices en l'occurrence, qui nous appellent. C'est le cas de Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour, et bien, on pourrait peut-être dire à Monsieur Sardou, salut, happy birthday, et puis ben, merci de nous faire chanter depuis très 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 longtemps.
Vous étiez à son dernier concert, à la scène musicale?
Ah oui.
Vous avez pleuré?
Oui, je n'ai pas honte de le dire, oui.
C'était un dernier concert incroyable.
C'était nos années de... Qu'est-ce qu'on va dire? Nos années de jeunesse, nos années d'enfance qui partaient.
Combien de temps Sardou est resté à la fin devant la scène musicale avant de quitter la scène?
Ah, moi, je m'en souviens pas parce que je suis partie assez vite, mais j'ai lu après que ça avait été très long.
Il y avait des mouchoirs blancs, il y avait également...
Il y avait des mouchoirs blancs, il y avait plein de larmes. Moi, j'avais une petite fille, elle devait avoir une dizaine d'années. Elle connaissait les chansons par cœur. Et ça m'a fait drôle parce que j'ai dit, la relève, elle est là.
Bah, hélas, il ne chante plus sur scène. Il ne veut plus chanter. Non. Il fait du théâtre et il ne veut plus faire du music hall. Vous vous souvenez de du premier concert que vous avez vu?
Oui, en 83.
C'était où?
Palais des Congrès.
Et quelles étaient les chansons titres en 83?
Vous m'en demandez, ça devait être Vladimir Ilitch à l'époque. Il y avait Vivant, il y avait Les Lacs du Connemara, bien sûr.
Vivant, c'est une belle chanson. Je suis vivant.
Je me souviens d'un concert à Nanterre, au début des années 2000, où on avait les Ricains.
Où il y avait ?
Les Ricains.
Les Ricains, ah oui. Alors les Ricains, c'est une chanson des années 60, qu'il a chantée dans les années 70, encore à l'Olympia.
Le général de Gaulle l'avait fait interdire à sa sortie.
Ouais, ce qui est curieux d'ailleurs, si les Ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie, il n'aimait pas les Ricains.
Exactement.
Tu sais que De Gaulle, je crois que De Gaulle n'est jamais allé aux commémorations du débarquement de Normandie.
Alors ça, je ne vais pas vous dire. Peut-être, non, là, je ne suis pas.
Je crois qu'il n'a jamais assisté aux commémorations, il ne voulait pas.
Non, mais c'est vrai que M. Sardou, il y a quand même un sac. Et il y a une très belle chanson sur le dernier album, qui même me tue.
Le dernier album de Sardou, il date de quand?
De ses derniers concerts, il y a à peu près 2 ans. Et qui même me tue, que très peu de radios
2017.
Que très peu de radios ont passé. Elle est extraordinaire, cette chanson.
Bah, on va l'écouter, tiens, quelques notes de musique. Je la connais peut-être pas, celle-là. Écoutez.
Qui m'aimes-tu ? Qui m'aimes-tu ? Aimer est au-dessus des lois. Qui me tuera ? Qui viendra m'offrir pour toujours la plus belle des histoires d'amour ? Ce que j'étais, je ne suis plus. Qui m'aimes-tu ?
Ce que j'étais, je ne le suis plus. Il y a une chanson, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent et qui demandent des chansons de Sardou sur les réseaux. C'est le cas de Pascal Normand, par exemple, qui me dit Rouge. Et ça, c'est une station. C'est une station, c'est une chanson, plus exactement, qui répond à notre station, la station Rouge. Très belle chanson.
Comme un soleil couchant de Méditerranée.
C'est son anniversaire. Alors je précise, ouais, pour ceux qui nous écoutent et qui se branchent à l'instant sur RTL, que Michel Sardou va bien. C'est simplement son anniversaire. Donc
Mais il est vrai que je me posais la question il n'y a pas longtemps. Je disais, le jour où je pense que RTL, vous allez en passer et en passer.
Oui,
en
mais
passer.
Bon, on va pas parler de ça là parce que c'est pas à l'ordre du jour, mais... hein, bien sûr. Mais il est jeune, hein, Sardou. Il a 74 ans. Il est de 47. On va essayer de joindre, je l'ai dit tout à l'heure, Monique le Marcy, qui a connu évidemment, parce que RTL est très associé évidemment à Michel Sardou. On va laisser passer une page de publicité, peut-être. Greg Caradoni, non, on a Patrick encore. Merci Marie-Hélène.
Merci
beaucoup.
Au revoir, bonne
journée. Vraiment merci. Patrick
merci,
est là. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Vous avez 59 ans.
Oui.
Donc vous avez toujours connu Sardou.
Ah oui, alors.
Oh là là. Ça a pas l'air de...
quand je suis parti au travail à 4 heures, je travaillais à West France, RTL justement annonçait Michel Delpech, qui est aussi de cette année-là, enfin, qui est plus jeune, qui était plus âgé. Hein. Mais Michel Sardou, pour moi, c'est vital.
Quelles sont les chansons que vous aimez ?
Oh là là. Alors, S'enfuir et après. Alors, dans le dernier album, une fille aux yeux clairs, Si on revenait moins riche, les mamans qui s'en vont, Préservation, Mauvais homme. Enfin, pour moi, c'est... Vous me dites une date, je vous dis le nom de la chanson.
Ah bon ?
Ah oui ?
Ah ben alors je dis 77 au hasard.
Eh ben 10 ans plus tôt.
C'est rigolo ça. Je dis 81.
81. Eh ben c'est évidemment c'est le être une femme musica.
Ah non, mais vous connaissez toutes les chansons, hein. Parce que Et si l'on revient moins riche, c'est pas une des chansons les plus connues de Sardou. Très belle chanson. Et si l'on revient moins riche.
Oh là là, mais magnifique. Même les
qu'est-ce que ça peut faire?
Les mamans qui s'en vont. Moi, tous les jours, il me faut au moins 5 chansons.
Non.
Je suis obligé. Pour ma part, c'est. Alors, il y en a qui ont besoin de fumer pour. Moi, si Michel Sardou. Maman me dit, le jour. Quand je parle de ça, parce que ça me donne des frissons, c'est vraiment...
Ah, restez avec nous. Eh, Patrick, on va marquer une pause, mais là, vous restez avec nous. Là, vous restez avec nous, parce que j'ai l'impression qu'on tient un sardoufile.
Ah, mais c'est...
Mais vous l'avez vu combien de fois en concert ?
Alors, la première fois, c'était en novembre 76. Et la dernière fois, j'ai une anecdote qui est touchante. C'était le 15...
Eh bien, vous nous le direz après la pub.
Ok, merci bien.
Et après le flash. Merci, Patrick. Patrick. Patrick, Patrick.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il est 14h. Je vous rappelle qu'on parle de Michel Sardou. Nous sommes avec un sardoufile, Patrick, qu'on retrouvera dans un instant. Mais Olivier Bouet est là.
Et il n'y a pas de raison de confiner en l'État. C'est la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, qui a fait cette mise au point ce matin. Comprenez pas de décision normalement cette semaine avant d'avoir les résultats définitifs au week-end du bilan des 15 premiers jours en fait, de couvre-feu à 18h. Olivier Véran, le ministre de la Santé, lui a tranché. Il doit y avoir un délai maximal de 3 à 4 semaines entre deux injections de l'actuel vaccin exemple Pfizer. Il y avait un débat pour un allongement, ce qui permettrait de vacciner un peu plus de personnes. Pour le vaccin Moderna, l'OMS vient d'indiquer qu'on pourrait aller, selon elle, jusqu'à 6 semaines de délai entre les deux injections. Berlin dément les informations parues dans 2 journaux allemands selon lesquelles le vaccin AstraZeneca ne serait efficace qu'à 8% pour les plus de 65 ans. Le laboratoire affirme aussi que c'est complètement faux. L'Union européenne doit valider ou non dans les jours qui viennent sa mise sur le marché. C'est un vaccin important. C'est le moins cher, le moins compliqué à distribuer. La France en a commandé 44 millions de doses. 12% des enseignants sont en grève d'après le ministère de l'Éducation nationale. Ils défilent dans toute la France pour exiger notamment une revalorisation salariale. À Paris, la manifestation est partie à 13h vers la rue de Grenelle. La météo demain, ce sera très gris, de la brume d'abord le matin sur un gros quart nord-ouest, des pluies éparses sur une diagonale Biarritz-Strasbourg avec peut-être même des flocons dans l'est. Et puis le quintet à Cagnes-sur-Mer, l'arrivée provisoire à l'instant, le 8, le 16, le 2, le 7, hélas.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Il y a beaucoup de personnalités qui sont nées un 26 janvier. Il y a Paul Newman, il y a Bernard Tapie aujourd'hui qui célèbre ses 60, il est de 43 donc ses 78 ans. Il y a donc Michel Sardou, il est 47 donc il a 74 ans. Et on était avec Patrick. Alors Patrick, il est extraordinaire puisqu'il habite Rennes. Et si vous lui dites une année, immédiatement, il vous dit un titre de Sardou. Alors, je vais dire au hasard, par exemple, 87, Patrick.
Un chanteur de jazz, évidemment.
c'est drôle.
Et d'autres.
vous disiez le. Vous racontiez une anecdote sur un concert.
Ouais. Lors de son dernier concert à Rennes, là, c'était le 15 décembre. Et puis 2017, et puis il a chanté deux fois, c'était le vendredi et le samedi. Et puis le samedi, le lendemain, on était chez notre coiffeuse, qu'on connaît depuis 20 ans à Rennes, là, une petite rue bien connue, dans le centre. Et puis, voilà. Et puis d'un seul coup, j'étais avec ma compagne, on parle avec la coiffeuse, tout ça. Et d'un seul coup, j'entends une petite voix, tout ça. Je dis, ben moi aussi, j'étais au concert. Et c'était une musicienne. Une violoniste qui était là.
Et donc ?
Et puis, alors évidemment, moi, on commence à discuter avec elle, alors évidemment. Et d'un seul coup, j'ai plus le nom de cette musicienne, il y a Pierre Billon qui rentre dans le salon de coiffure.
Pierre Billon qui était aussi ami avec Johnny.
Une semaine avant, il portait le cercueil de Johnny. C'était le 9 décembre, là, et puis c'était le 16 décembre, alors évidemment, et de là, ma compagne en a parlé, et puis j'ai eu la photo de Michel Sardou, la signature, 3 semaines avant, lors de la fin d'une pause de sa tournée, la coiffeuse est revenue, parce que faut que je vous explique, cette coiffeuse-là avait une amie à Rennes, et venait se faire coiffer dans ce salon de coiffure.
Et puis, on s'est un peu éloigné là, peut-être, Patrick. On s'est un peu éloigné de Sardou, là, un poil. Peut-être.
Et ma compagne me dit, assis-toi. J'ai eu la coiffeuse qui m'a rappelé. Et j'ai la... pour Patrick, l'amitié Michel Sardou, signé de ça.
Ben merci beaucoup Patrick, merci fan absolu de Michel Sardou. On est avec Sabine, bonjour. Alors Sabine, avant que vous parliez de Michel Sardou, vous dites que vous aimez son charisme.
Oui.
Bonjour. Alors moi,
bonjour Monsieur Pascal Pro.
Je vais vous faire...
merci à vous de parler de Michel Sardou, vous êtes mon rayon de soleil aujourd'hui.
Ah bah écoutez, ça je suis content.
En ces périodes, on va être confiné, pas confiné, c'est très angoissant. Je suis seule et franchement, vous êtes mon rayon de soleil.
Eh bien, vous êtes formidable, parce que c'est surtout Sardou qui est le rayon de soleil. Mais je voulais vous faire écouter...
Vous êtes un peu à la radio en tant que journaliste, ce que Sardou est avec son public. Vous êtes proche des auditeurs. Je vous écoute tous les jours. Je vous attends à 13h. Et pourtant, j'ai 52 ans. Vous voyez, je suis émue de vous parler. Vous êtes tellement proche des auditeurs. Vous savez, vous trouvez toujours le bon mot quand il y a des sujets difficiles. Donc franchement, et là, vous parlez de Michel Sardou, mais waouh, que ça fait du bien.
Ben vous êtes vraiment gentil, ça me touche beaucoup Sabine. Mais je vais vous faire écouter une interview qu'on écoute régulièrement dans le bureau de Thomas Soto, une interview de Michel Sardou qu'il avait donnée à Yves Calvi, qui nous fait...
Mais je l'ai je l'ai enregistré, moi. Ça me fait rire.
Mais bien sûr, et on était ce matin avec Victoire de Rinxin et également avec Thomas Souteau, et on peut écouter 10 fois cette interview et on rit toujours de la même manière. Écoutons.
Je hais cette époque. Je hais ce siècle. On n'a plus aucune liberté. Eh merde, merde, ça va.
Voilà, donc...
Et les gilets rouges, et les gilets jaunes. Oh, qu'est-ce qui m'avait fait rire.
Non, non, mais voilà, l'interview, mais c'est une interview mythique.
Je suis un peu... J'ai pas Internet. Et ce jour où vous avez eu Monsieur Sardou dans vos studios, là, mais ça m'a réconfortée parce que je passe pour une nulle berdue comme j'ai pas Internet. Et quand Sardou a dit, bien souvent, c'est des abrutis qui s'expriment, mais ça m'a fait rire.
Bon, quelles sont les chansons de Sardou que vous préférez?
Moi, je l'ai vu sur scène, L'an 1000. Il y a un jeu de lumière avec ses choristes qui est magnifique. L'an 1000. Bon, bien sûr, après, c'est les classiques, les lacs du Connemara, le France, Vladimir Ilitch, Les yeux d'un animal.
L'an 1000, c'est une chanson formidable parce qu'elle a du souffle, L'an 1000. Et effectivement, je ne sais pas si Greg Caranoni l'a calé, L'an 1000, mais c'est une chanson merveilleuse. Des yeux qui tweetent.
Juste vous en plus.
Crevant le ciel comme des épées, des forêts noires.
Quelle voix.
Que des sorcières ont envoûté, des chevaux fous et des milliers de races humaines lancées sur nous. Du plus profond de la bohème.
Alors, je vais voir qui a écrit cette chanson, mais j'imagine on est avec Jacques Revaux ou avec Delanoë, mais c'est une chanson sublime, ça.
Et sur scène, avec tous les jeux de lumière, là, comme des cathédrales, c'est splendide. Hein. Splendide. Il a découvert.
C'est Pierre Barret qui l'a écrite, celle-là.
Les rois méchants, soufflant la fureur et la haine.
Et c'est Jean, et évidemment, c'est Jacques Revaux qui a composé. Non, mais c'est un génie, Jacques Revaux.
Oui.
À des années de Voie lactée. C'est l'anniversaire de Sardou, je le précise.
Aux horloges de la chrétienté,
il y a du souffle dans ça. L'arrivée du dies irae, la colère de Dieu, comme vous le savez. Jacques Revaux, magnifique. La pub à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je hais cette époque. Je hais ce siècle. On n'a plus aucune liberté.
Eh merde. Merde, ça va.
Sabine.
Mais j'aime son franc-parler. Il a toujours dit ce qu'il pensait.
Vous l'avez vu sur scène?
Oui, je l'ai vu sur scène. Et contrairement à ce qu'on croit, il est très sympathique hein, à la fin de ses spectacles. Il prenait du temps pour dédicacer ses disques. Il est très sympathique. Hein.
Et quelle est la chanson que vous préférez? Vous l'avez dit tout à l'heure, mais quelle est celle qu'on pourrait écouter maintenant pour vous faire plaisir?
J'aime bien Les yeux d'un animal aussi.
Elle est
plus... Le France.
Ah, Le France, on ne l'a pas écouté encore.
Oui, parce que Le France...
Mais Les yeux d'un animal, c'est une chanson qui n'est pas trop connue. Hein.
Non.
Les yeux d'un animal, je ne sais pas si Greg va la...
Mais Le France, oui, parce qu'à l'époque...
Ah bah Le France, évidemment.
Avec la gauche, avec le milieu ouvrier.
Oui, mais c'est marrant parce que c'est pas une chanson de droite,
Le
France.
Fait, hein,
c'est au contraire parce que les ouvriers de Saint-Nazaire adoraient Michel Sardou pour ça. Qu'il avait évidemment sauvé Le France. Il y a une petite erreur dans le texte. Il dit Saint-Nazaire, pays breton où je suis né.
Oui, parce qu'il est pas né. J'aime bien aussi. Je viens du sud.
Ah oui.
Elle est belle cette chanson.
Elle est superbe.
Ne m'appelez plus jamais France. J'étais un bateau gigantesque.
Ça doit être une version live. Merci Sabine.
Merci. merci vraiment à vous.
Bah non, vous êtes adorable, c'est tellement gentil ce que vous avez dit.
Ça donne tellement de légèreté avec ces sujets qui sont très... franchement, là, vous êtes vraiment le rayon de soleil. Hein.
Vous êtes gentil. Merci,
moi,
Sabine. Merci. Bonjour Yves.
Bonjour. Yves,
alors on fait un tabac avec Sardou, parce que c'est vous qui faites l'émission en fait, et les témoignages arrivent en masse sur Sardou, ce n'est que son anniversaire, hein, si j'ose dire, il a 74 ans, mais vraiment tout le monde a envie de partager sa passion avec Sardou. Yves.
Ben moi vous savez, je suis fan de Sardou sûrement de la première heure, je me rappelle que la première fois que je l'ai vu c'était à Bobino. Et il devait être en première partie de... Je sais plus si c'était pas Enrico Macias ou quelque chose, quelqu'un comme ça. Et j'y suis allé rien que parce qu'il était là. Parce que j'avais entendu sa chanson, Les Moutons, et puis San Francisco. Je sais pas si vous vous rappelez de cette chanson.
San Francisco? Mais je pensais que c'était plutôt de...
Non. C'était... Quand j'ai vu San Francisco Bridge rallier l'univers en deux rives. C'était une de ses premières chansons, il était. Et puis il avait aussi J'aime bien les moutons. Et puis alors moi, ce que j'aime bien de plus chez Sardou, c'est qu'il a le culot et le courage de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Parce que les histoires des écoles, il y en a plus d'un qui l'a pensé, mais qui disait rien. L'histoire des...
Alors, vous faites référence à une chanson qui est « J'ai fait les deux écoles et oui. J'ai tout oublié ».
Oui, mais il y a beaucoup de gens qui... D'ailleurs, je me rappelle qu'à la manifestation où il y avait eu cette...
1 million de Français, 84.
Il y avait des gens qui chantaient cette chanson.
Bien sûr.
Et moi, je me rappelle l'émotion qu'avaient les... Je vous en disais tout à l'heure, des marins, des... Oui, j'en pleurerais presque... Des hommes du chantier naval, qui, quand il a chanté le France, moi j'ai vu des gens qui étaient en larmes.
C'est vrai.
Et en plus...
Faites attention, parce que vous allez nous faire pleurer.
Non, mais en plus de ça, moi j'ai une chose qui est inouïe, c'est que moi j'ai connu mon épouse qui est extraordinaire, qui est malheureusement malade, mais elle est extraordinaire, mon épouse, et je l'ai connue sur la maladie d'amour. Et malheureusement, bon, maintenant, on n'a plus la même santé. Mais ma femme, c'est une femme extraordinaire, parce que malgré tout ce qu'elle a, elle est pleine de joie. Et moi, je me rappelle, j'ai connu sur cette chanson.
En 73
mais, comment?
En 73.
Oui, la maladie d'amour. Mais c'était... Non, mais c'est... Pour revenir, pour reprendre tout... C'est un chanteur qui a été critiqué, qui a été vendipé, qui a été tout, mais... Moi, je me rappelle, c'était un des seuls chanteurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, justement, des shows qu'il y avait le samedi soir,
bien sûr,
qui était capable, avec la texture des voix, de chanter avec Johnny Hallyday.
Non, mais il est clair que Sardou est la dernière légende vivante en France en matière de chansons. C'est une légende, alors... Il y a des très grands chanteurs qui sont vivants comme Woolsey, comme Souchon en France, comme et tant d'autres. Mais il y a quelque chose chez Sardou. C'est le plus ancien d'ailleurs hein, depuis le décès de Johnny. Je pense que c'est le plus ancien aujourd'hui. C'est celui effectivement qui rassemble toutes les générations.
Insolent, qui unit dans son lit les cheveux blonds.
Yves, on va passer les vieux mariés peut-être pour vous avec votre épouse.
Si
parce que c'est une chanson qui peut peut-être vous parler.
Ah bah oui.
J'habiterai à l'hôtel. On prendrait le café au lit. On choisirait un petit hôtel dans un joli coin du midi. Ce soir il me vient des idées. Ce soir il
merci Yves, la pub à tout de suite.
On a toujours bien travaillé
jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors évidemment, quand vous dites que Sardou est le dernier géant, le dernière légende, vous êtes vite rattrapé par la patrouille parce que à juste titre, on vous dit Paul Naref, on vous dit Véronique Sanson, Mais c'est vrai que il me semble que Sardou a une audience plus large encore que Paul Naref, qui est évidemment un grand musicien et qui a des d'immenses chansons. Mais peut-être est-ce que je me trompe. On va être avec Rémi et ça sera peut-être notre dernier auditeur. Et c'est intéressant d'avoir Rémi parce qu'il a 24 ans.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour Rémi.
Bonjour Pascal Pro.
Comment ça va? Quand vous m'appelez monsieur, je prends 50 ans de plus.
Ah, je vous écoute tous les jours à 13h. Je suis chauffeur-livreur et tous les jours, j'allume les auditeurs ont la parole. Et là, c'était l'occasion de vous appeler pour l'anniversaire de Michel Sardou.
Bon.
Je suis fan.
depuis toujours ou depuis...
Ça fait un moment que je suis fan, depuis l'adolescence. J'ai été baigné là-dedans. Moi, j'aime bien les anciens chanteurs, tout ça. Et Sardou, c'est celui que j'apprécie le plus.
mais vous êtes le seul, par exemple, parmi vos amis à aimer Sardou, parce que vous avez 24
oui.
ans.
Oui, je suis. Ouais, voilà. Je suis, comme vous dites, je suis le seul. La plupart, ils écoutent pas Michel Sardou. Moi, je me lève le matin, j'écoute Sardou dans le travail.
Vous avez écouté quoi ce matin, par exemple?
Ce matin, j'ai écouté La fille aux yeux clairs, Les vieux mariés, Bonsoir Clara.
Ça, c'est quoi? C'est dans votre playlist?
Oui, j'ai une playlist.
Vous connaissez playlist. Bonsoir Clara, Greg? Bonsoir, marie-toi, Clara, mon vieux,
non, pas
marie-toi.
Du tout.
C'est la retrouvée. Ben, elle est géniale, Bonsoir Clara. C'est une chanson des années 70 qui est formidable. Qui est une chanson sur le mariage. Marie-toi, mon vieux, marie-toi.
Marie-toi, mon vieux, oui.
Et après, c'est quoi les chansons?
Alors après, il y a un petit...
Non mais dans de Bonsoir Clara, c'est si tu ne veux pas, si tu ne veux pas que ta femme s'en aille, ne te marie pas.
J'ai pas besoin de la chercher.
Si tu préfères ta liberté,
c'est pas le moment d'avoir des chaînes à t'essuyer. C'est ta valise, Bonsoir Clara. Fais bien la bise à ton tonton, à ta tata. Si tu ne veux pas que ta femme t'embête, Bonsoir Clara.
Ça, c'est vraiment... Alors ça, aujourd'hui, c'est impossible à écrire, hein, parce que là, vous êtes rattrapé par la patrouille, hein, je vous le dis. C'est terminé, merci Rémi, c'était génial de vous avoir.
Merci
14h23,
vous,
le débrief avec Monsieur Tessier.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
De quoi avons-nous bien pu parler aujourd'hui ?
Confinement, reconfinement, c'était notre question d'hier, ça sera notre question de demain et c'est notre question d'aujourd'hui.
Demandez le programme des prochains jours et oui, le confinement, c'est pour quand? Emmanuel Macron a-t-il raison d'attendre, de ne pas suivre immédiatement certains scientifiques? La réponse de Vincent.
Les médecins ne doivent pas être politiques et les politiques ne doivent pas être médecins.
Autre sujet, les primes complexes à la RATP, près de 311 avec une prime notamment de capture d'animaux. 3,50€ la souris, oui, 3,50€, qui dit mieux? François a une proposition de prime pour vous, Pascal.
Bonjour Pascal, eh bien vous n'êtes pas si pénible que ça quand même, donc la prime de être petite.
Ah, bon compliment. Et dans cette émission, on aime vraiment votre franc-parler, n'est-ce pas, François?
Et je me fous de savoir si quelqu'un n'aime pas Jésus et j'en ai rien à péter. Ma croyance est à moi, elle appartient pas aux voisins.
J'ai été un peu surpris pour tout vous dire, autant de trivialité dans votre bouche, cher François.
Mais un sujet vous a fait réagir en nombre standard.
Je propose qu'aujourd'hui, nous rendions hommage à un des grands chanteurs français. Michel Sardou qui a 74 ans.
Et là, du Connemara.
Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix.
Et dans l'émission, vous connaissez le chanteur par cœur, comme Patrick.
Alors je vais dire au hasard, par exemple, 87, Patrick.
Un chanteur de jazz, évidemment.
Et bonne réponse, on avait envie de vous parler d'amour aujourd'hui. Entre vous et Greg Caranonia, on a senti que c'était la folie.
J'ai tellement envie de parler d'autre chose pour tout vous dire, Greg Caranonia.
Ça s'entend et vous avez surtout... Vous n'avez surtout pas envie d'écouter Michel Sardou, si. Parce que vous n'arrêtez pas de parler dessus.
Ah, quelle belle amitié, mais allez, de belles paroles entre Greg et vous, et ça repart.
Vous m'avez bâché, là, vous avez vu?
C'est parce que je vous aime bien.
Moi, je vous aime tout court, ami.
Oh, j'ai quelque chose à vous dire.
C'est beau, de l'amour dans cette émission, mais contexte sanitaire oblige, Pascal, vous modifiez les chansons de Michel Sardou.
Bah, j'adorais le monde d'avant, comme vous dites, mais là, quand on fait le Java le samedi dans son appartement en couvre-feu à 18h. Voilà les nouvelles paroles.
Adaptons-nous à cette actualité et parmi vos beaux témoignages, allez, celui de Sabine, pour vous Pascal.
Vous êtes mon rayon de soleil aujourd'hui.
Écoutez.
Vous êtes un peu à la radio en tant que journaliste, ce que Sardou est avec son public. Vous êtes proche des auditeurs, je vous écoute tous les jours, je vous attends à 13h.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Dans cette actualité, rassurons-nous avec Annie Cordy.
Demain. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu les deux écoles, c'était bien, ça.
Avec plaisir.
J'ai eu l'instituteur qui, dans les rois de France, n'a vu que des tyrans au règne des astres.
Flavie Flamand nous dira si elle aime Sardou. La pub, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.